le podcast du réseau des écoles françaises à l'étranger.
Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marlène Albert-Yorca et Pierre Rouillard, que je remercie de leur présence et qui viennent nous parler de La Dame d'Elche, un destin singulier. Cet essai, paru dans la collection Les Essais de la Casa de Velázquez en 2020, a fait l'objet d'une traduction en espagnol, publiée en octobre 2023 dans la même collection. Une traduction en anglais est en préparation. Marlène Albert-Yorca est anthropologue et a fait ses terrains dans le Levant espagnol et dans le sud de la France. Pierre Rouillard est historien et archéologue, spécialiste de l'Ibérie antique. Frappé par la beauté et la singularité de ce buste, découvert en 1897 à Elche, au sud de la province d'Alicante, l'archéologue français Pierre Paris l'acheta pour le compte du Louvre. Rendu à l'Espagne en 1940, ce chef-d'œuvre de l'art ibérique, objet de questionnement pour les archéologues et source d'inspiration pour les artistes, est devenu une icône identitaire. Pierre, comment est-elle cette statue ?
Eh bien, ce que l'on appelle la Dame d'Elche est un buste en pierre de 56 cm de hauteur, en grès. C'est une tête de femme qui se caractérise par deux aspects essentiels, un visage extrêmement sévère, comme absent, et sur le buste, des bijoux extrêmement exubérants et très caractéristiques de cette dame. Elle porte des rouelles sur les oreilles. Elle se rapproche des œuvres grecques par sa qualité, mais elle s'en distingue par l'exubérance des bijoux. Elle s'en distingue par le fait qu'elle n'est pas en marbre, qui caractérise les œuvres grecques dans leur totalité. C'est une œuvre qu'il a été très difficile d'identifier et de cerner dans les séries de l'art antique. Certains y voyaient une image avec une filiation grecque, d'autres avec une filiation orientale. Mais cette œuvre, aux alentours de 400 avant Jésus-Christ, est restée une interrogation pour les savants, au point que quand elle est arrivée au Louvre, comme vous le rappeliez à l'instant, le cartel qu'il a présenté disait « style gréco-phénicien de l'Espagne ». Donc là, toute l'ambiguïté de la dame commence avec cet événement.
Marlène, vous faites un parallèle entre la Dame d'Elche et la Vénus d'Arles, ou les statues du Parthénon, qui ont eu, selon vous, un destin analogue. Pouvez-vous nous parler du parcours insolite de cette sculpture ?
Bon, ce sont des statues très différentes, mais il y a des points communs dans leur parcours. Pierre vient de dire que la Dama d'Elche a été achetée pour le compte du Louvre quelques jours après sa découverte par un archéologue français, Pierre Paris, n'est-ce pas ? Vous l'avez dit tout à l'heure. Et les deux autres groupes de statues, hein, les statues du Parthénon, sont emportés par un diplomate anglais, Lord Elgin, au début du XIXe siècle, à une époque où la Grèce est sous occupation ottomane. Elles partent à Londres. Et la Vénus d'Arles est emportée, sans autre forme de procès, par Louis XIV. Très peu de temps, quelques années après qu'elle a été découverte dans les ruines du théâtre romain d'Arles. Et donc, toutes les trois ont été enlevées à leur lieu d'origine dans des situations qui sont des situations quand même pas coloniales, mais enfin de rapports de puissance entre les pays quand même de l'époque. Et ce qui est très frappant quand on regarde la façon dont on a parlé de ces départs en Grèce, en Espagne, ou à Arles, c'est qu'à chaque fois, on trouve la même rhétorique. On parle de l'exil de ces statues, on les personnifie, on dit qu'elles sont tristes, loin de leur pays d'origine. Et ça, c'est, je trouve, très, très intéressant. Voilà. Et bien sûr, à chaque fois, la communauté d'origine réclame le retour de ces statues, mais elles sont parvenues.
Pierre, dans quelle proportion et de quelle manière la Dame d'Elche est devenue une source d'inspiration pour les artistes ?
Eh bien, au départ, il y a une copie. C'est-à-dire que la pièce est à Paris, mais le directeur du musée de Madrid en fait faire un moulage qui a été effectué par un grand artiste espagnol, Ignacio Pinacho Martinez, qui est l'héritier d'une grande famille elle-même de peintres et de sculpteurs. Donc, en 1907, il vient faire à Paris une copie et un moulage. À ce moment-là, ces moulages sont diffusés, une centaine de moulages sont distribués dans différents endroits, différents musées, différentes collections, même aux États-Unis. Mais en même temps, elle devient aussi une source d'inspiration, et notamment pour celui qui a fait le moulage. Et en particulier, on retiendra de lui, parce qu'il n'est pas le seul à avoir été inspiré par la Dame d'Elche, des sculptures de femmes nues, aux formes plantureuses, avec ce qui est l'élément le plus caractéristique de la Dame d'Elche, ses rouelles. Et cette femme plantureuse, eh bien, peut être perçue, si vous voulez, comme une valorisation de la fertilité dans les sociétés antiques et la richesse, surtout du pays valencien.
Marlène, comment expliquez-vous le phénomène de réécriture de l'histoire de la Dame d'Elche ?
Tous les contemporains de la Dame d'Elche ont été frappés par le contraste entre la sévérité du visage et l'abondance des bijoux qui la parent. Je pense que ça, c'est le premier élément. Ça a certainement encouragé à la voir comme un personnage exotique. Les contemporains disent qu'à Elche, les gens l'ont appelée d'abord la Reina Mora, la Reine Mort. Et donc, voilà. Hein. Bon, je dirais que les savants, même si c'est très iconoclaste ce que je vais dire, au fond, ils ont fait un peu la même chose, puisqu'ils pensaient qu'elle était orientale, n'est-ce pas, phénicienne, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin. Et ensuite, à partir des années 1930, on voit en elle une princesse ou une prêtresse de l'Atlantide. Et actuellement, un extraterrestre, parce que les Atlantes, forcément, ils avaient, comme chacun sait, des soucoupes volantes. Et par ailleurs, alors ça, c'est un des imaginaires de la Dame d'Elche. Une autre projection imaginaire, je dirais, c'est le fait que les Espagnols ont bien sûr valorisé son origine autochtone. Elle a été sculptée près d'Elche. Ça, les archéologues, Pierre Rouillard en particulier, l'ont bien montré aujourd'hui. Et elle témoigne de l'existence d'un art proprement ibérique.
Merci à tous les deux de nous avoir donné envie d'en savoir plus sur cette étrange beauté. Et merci à Lima et à Mathieu Gousse de nous avoir accueillis dans leur studio pour cet enregistrement.